présentation du prochain conférencier. J'ai une petite annonce à faire. Certains collègues viennent d'assez loin, en dehors de l'académie. Je parlais avec un collègue de l'UFM de Montpellier. Et donc, il leur serait nécessaire, pour être dédommagé, d'une attestation de présence. Donc, pour tous les non-poitevins et tous ceux qui en ont besoin, je vais mettre à disposition une feuille, hein, ce qui vous permettra d'émarger. Vous mettez votre nom et puis votre adresse e-mail, hein, votre établissement. Et à la limite... j'ai pas mes lunettes. Ah non, c'est vrai, j'ai pas mes lunettes. Et j'y vois rien. Et à la limite, il serait peut-être bien que tous les non-poitevins s'inscrivent, même s'ils n'ont pas besoin d'une attestation de présence, qui nous permettra de répertorier d'où vous venez et d'envisager peut-être de dupliquer sous une forme ou une autre ce type de journée ailleurs. Voilà. Donc je vous donne une feuille et puis aux pauses, vous remplissez si ça vous concerne. Merci. Anne.
Bon, merci à vous, Monsieur Lecointre, merci d'être chez nous. Vous revenez d'ailleurs pour les Amphis du Savoir au mois de mars. C'est dans notre programme, un petit programme rouge qui est en haut, là, vous pouvez vous servir. Donc Guillaume Lecointre, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes directeur du département systémique et évolution au Muséum National d'Histoire Naturelle. Systématique, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je lis trop vite et je parle trop vite, mille excuses. Directeur de l'école doctorale Sciences de la Nature et de l'Homme. Vous êtes chef d'équipe de l'unité du CNRS 7138, systématique, adaptation, évolution, et vous avez publié plus de 70 articles professionnels et 5 livres, dont 2 sur les intrusions spiritualistes en sciences chez Sileps. Parallèlement, vous avez animé la rubrique scientifique du journal Charlie Hebdo entre 1995 et 2005. Donc, je pense sur la bibliographie qui a été distribuée à nos auditeurs, le site internet où on peut trouver toute votre bibliographie, et on va vous écouter. Merci beaucoup d'être chez nous, monsieur.
Oups, si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est aussi que je me suis pas mal intéressé à des questions de diffusion des connaissances et à la qualité de notre enseignement public. C'est à ce titre que je vais m'exprimer aujourd'hui. Alors, où est-ce que je suis ? Là, voilà. Où est-ce qu'elle est la projection ? En bas ? Ah oui, par là, d'accord. Ça change de place par rapport aux versions antérieures. Voilà un petit logo de l'année Darwin 2009. Si vous voulez savoir quelles sont les manifestations nationales relatives à la célébration du 150e de l'origine des espèces, il y a un site web Darwin 2009 que vous pouvez consulter. Enseigner l'évolution, évidemment, il y a beaucoup de difficultés auxquelles les enseignants peuvent être confrontés. Évidemment, je ne vais pas me substituer aux enseignants aujourd'hui pour leur dire qu'est-ce qui est difficile. Je voudrais pointer des difficultés que nous, les scientifiques, auxquelles les scientifiques sont sensibles, parce qu'ils y sont confrontés eux-mêmes lorsqu'ils s'adressent au grand public, et ils y sont confrontés aussi lorsqu'ils s'engagent dans la formation des enseignants. Je vais vous fournir des mots-clés et de la matière pour qu'on réfléchisse justement ensemble à ces difficultés. Si certains d'entre vous veulent la version PDF de ce PowerPoint, je peux bien sûr vous la donner, sans problème. La première des difficultés pour enseigner la théorie de l'évolution, comme on dit, c'est que derrière le mot évolution, dans nos publics comme chez nos élèves, il peut y avoir 5 acceptions courantes du mot évolution. Alors je commence par le bas. À l'origine, évolution vient de evolvere, c'est le déploiement de ce qui existe déjà. C'est le déploiement de quelque chose qui est contenu en germe, en quelque sorte. Et ce mot vient de l'embryologie au XIXe siècle. C'est Herbert Spencer, un contemporain de Darwin, qui utilise le mot évolution là où Darwin, lui, n'utilisait que le mot de transmutation dans la première édition de L'origine des espèces. Alors, ça fait un premier sens qu'on a oublié, hein, mais ce premier sens peut-être, lui aussi, au cours de l'histoire des sciences, porter quelques difficultés. L'évolution, si c'est le déploiement de ce qui est contenu en germe, c'est pas tout à fait la même chose que l'évolution conçue comme transmutation des espèces. Revenons au grand public. L'évolution, ça peut être, selon les uns ou les autres, un processus par lequel les espèces se transforment. une théorie générale de la biologie, de l'anthropologie d'ailleurs aussi, et de la paléontologie également. Le déroulement historique des formes de vie à la surface de la planète, une grande histoire, si vous voulez, un scénario, un grand récit. L'histoire qui établit, un arbre qui établit des relations d'apparentement, ça c'est l'image mentale qu'on peut avoir dans le grand public quand on dit évolution, on pense assez spontanément aujourd'hui à un arbre. Le public français, je fais référence ici au petit livre excellent de Gérald Bronner chez Vuibert, qui s'appelle Coïncidence, où on relate une enquête des représentations du public français en matière d'évolution. Le public français, dans son immense majorité, n'est pas créationniste, loin de là. Il est transformiste, en fait. Et il pense une évolution qu'il dit darwinienne, mais dans des termes qui sont plus proches de ceux de Lamarck que de ceux de Darwin, d'ailleurs. Et c'est l'image de l'arbre, finalement, qui est quand même prépondérante. C'est certainement dû, d'ailleurs, à la diffusion des connaissances, bien sûr, et à l'enseignement. Et une évolution vue comme une marche vers le progrès, alors ça a été... un petit peu ce que le 19e siècle nous a transmis. Mais aujourd'hui, inutile de vous dire que la notion de progrès est une notion qui relève du discours de valeur et pas du discours de fait. Quel progrès? Progrès pour quelle espèce? Selon quels critères? Enfin, le progrès et la perfection ne sont pas véritablement des notions scientifiques. Donc, voilà, ça peut se mélanger. Vous dites évolution dans une classe ou dans un grand public. Si on ne précise pas, chacun peut entendre des choses différentes, et effectivement, ça peut susciter des malentendus. Alors, pour les scientifiques, ce qu'on appelle évolution, c'est davantage, même chez nous, y a des acceptions différentes. La théorie générale dans laquelle nous travaillons aujourd'hui, la théorie de l'évolution, et le processus par lequel les espèces se transforment chez certaines de nos communautés ou de nos sous-communautés, l'évolution réfère plus au processus qu'à la comparaison des structures. Voilà, donc ça va mieux en le disant, ça va mieux en le sachant en tout cas, et bien toujours préciser ce qu'on entend par évolution. Alors, j'ai rajouté ça au dernier moment, parce que ce matin on n'a pas parlé de sélection naturelle. Donc, il n'y a pas beaucoup de mots ici, mais la première des difficultés, justement, à enseigner l'évolution, c'est enseigner proprement ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et la difficulté chez nos publics ou nos élèves, c'est finalement qu'à travers la sélection naturelle, on a un monde qui nous angoisse parce que la sélection naturelle, dans son processus, vous donne cette image d'un monde qui n'est pas finalisé, dans lequel il n'y a pas de destin. Si vous êtes chez des élèves ou un public qui assigne aux sciences des tâches qu'elles n'ont pas à avoir, à savoir notamment vous rassurer, parce que ça, personne ne donne dans le cursus aujourd'hui le périmètre de science. Quelles sont les propriétés qui font qu'une assertion scientifique peut être qualifiée de scientifique? Et d'autre part, quels sont les objectifs de la science? Si on se trompe sur ces objectifs, si on demande aux sciences de nous rassurer alors que ça n'est pas sa fonction aujourd'hui, je ne parle pas des fonctions d'hier, je parle des fonctions d'aujourd'hui, eh bien, on peut se retrouver angoissé du fait que les biologistes vous donnent une image de la transformation des espèces sans destin. Or, n'y a-t-il pas plus grand motif à autosatisfaction et à confort intellectuel que de s'assigner à soi-même un destin et que d'assigner aux objets qui nous entourent un destin? Toutes nos intentions, toute notre psychologie est attentionnée, nous pensons maîtriser une partie de notre environnement immédiat, nous agissons en fonction de fins. Si vous assignez à la science une fonction d'un discours métaphysique qui est là pour vous rassurer, eh bien l'évolution qui vous donne une vie non finalisée à long terme, j'entends par là, il n'y a pas de dessin cosmique, nous ne sommes même pas capables de prévoir ce que demain seront les espèces, eh bien ceci peut susciter effectivement une angoisse, et je pense que c'est une des sources principales du créationnisme, pas seulement anglo-saxon, en général, c'est qu'on assigne à la science des tâches qu'elle n'a pas à faire aujourd'hui, encore je précise bien aujourd'hui, la science d'hier n'est pas évidemment celle d'aujourd'hui. Donc la sélection naturelle, elle vous dit en quoi la théorie de l'évolution d'aujourd'hui reste darwinienne. C'est que Darwin a donc proposé ce schéma de sélection naturelle, lequel d'ailleurs a pris du temps pour qu'on puisse lui donner une assise expérimentale. Ernst Mayr donne 5 grands piliers de la théorie de Darwin. Je ne vais pas les énoncer parce qu'il faut faire vite. Mais de ces 5 grands piliers, seul un seul tarde à trouver sa confirmation expérimentale. Il faut attendre Weldon en 1894 et puis la génétique des populations des années 1920 pour que la sélection naturelle en tant que mécanisme trouve une axis expérimentale, une approche dans le monde réel véritablement puissante. C'est une conjecture extrêmement cohérente entre 1859 et 1894. La sélection naturelle reste une conjecture, une nécessité théorique qui maximise la cohérence de l'ensemble du corpus d'observation que Darwin fait. Je vous rappelle que Darwin est un grand naturaliste. Il faut lire L'origine des espèces. C'est un très très beau livre d'histoire naturelle, véritablement. Et donc, la sélection naturelle qui reste en attente, en quelque sorte, jusqu'à la charnière 19e-20e, prend toute son ampleur au 20e siècle. Qu'est-ce que c'est que la sélection naturelle ? Alors, vous avez effectivement pas mal de... La difficulté qu'on a, c'est à lutter contre les leitmotifs, un petit peu les slogans. On entend par là la survie du plus apte. On entend par ci the struggle for life, la lutte pour la vie. Toutes ces formules ramassées, trop ramassées, qui ont été même utilisées du vivant de Darwin, et parfois par lui-même, parce qu'il s'agissait de concentrer une idée, toutes ces formules, évidemment, ne vous donnent jamais la richesse d'un texte et la richesse d'une pensée. Si vous dites ça à un public qui n'a pas le contexte, hein, là je ne veux pas me faire historien des sciences du dimanche, mais je pense que les historiens des sciences pourront le dire, si vous réduisez la richesse d'une pensée à un slogan, vous ne comprenez pas un auteur, bien sûr. Le struggle for life, par exemple, ça consisterait à dire que les variants qui laissent plus de petits à la génération suivante le font parce qu'il y a une lutte pour la vie. Et que quand vous dites ça à un grand public, la lutte pour la vie, c'est casser la figure au voisin. Alors, ça va très vite, hein. Je veux dire, excusez-moi, je ne simplifie pas, c'est ce qui est perçu par le public. Si on veut bien enseigner la sélection naturelle, il faut d'abord lui redonner explicitement sa dimension populationnelle. Si vous dites lutte pour la vie, un jeune ou même un public s'assigne à lui-même un destin évolutif dans un temps court, et pense que la sélection naturelle, c'est une affaire d'initiative personnelle. Vous rejoignez assez vite ce qu'on peut appeler une certaine forme de libéralisme économique, si je peux me permettre de faire un détour par Spencer, qui n'est pas Darwin, hein, un détour par Spencer. Justement, Spencer n'a retenu de Darwin que le struggle for life. Or, laisser plus de petits à la génération suivante, il y a plein de manières de le faire. On peut laisser plus de petits à la génération suivante en accédant à plus de ressources, je vous l'accorde, en fuyant mieux les prédateurs, je vous l'accorde, mais aussi en étant plus attractif sexuellement, et là vous avez tout le corpus de connaissances que Darwin met en place sur la sélection sexuelle, mais aussi en coopérant à l'intérieur de l'espèce, et là, lisez la filiation de l'homme en 1871, les populations où il y a en quelque sorte la naissance d'une socialité. Alors, quelles que soient d'ailleurs les modalités de cette socialité, y compris en passant par la sympathie, y compris en passant par l'aide portée aux plus faibles ou la compassion, vous avez une origine naturelle de la morale là-dedans. Les populations qui ont des dispositifs de cohésion populationnelle en termes comportemental, ces populations-là, on peut très bien penser qu'elles, si ça nous arrive jusqu'à nous, eh bien c'est que les populations qui ont pratiqué ces dispositifs ont laissé plus de petits à la descendance que ceux qui ne les pratiquaient pas, ont su mieux faire face aux aléas de l'environnement. Donc, coopérer, c'est aussi, quelque part, un élément du raisonnement en termes de sélection naturelle. Alors, coopération intérieure de l'espèce, mais coopération entre espèces. Nous avons ici, avec Marc-André, un spécialiste de la symbiose, et du continuum entre la symbiose et le parasitisme. Il y a vraiment un continuum, effectivement, entre la situation où on identifie un parasitisme jusqu'à celle à laquelle on identifie une symbiose ou vice-versa, d'ailleurs. Mais la coopération entre espèces est un produit de la sélection naturelle aussi. Donc, je ferme la parenthèse. La sélection naturelle ne peut être comprise qu'en lui rendant sa dimension populationnelle. Et pour faire cela, il faut parler de la sélection naturelle comme un succès reproductif différentiel. Je pense que parler de struggle for life et parler de la survie du plus apte, ça n'est pas pédagogique. La survie du plus apte, on a l'impression que c'est une affaire d'individu. En plus, quand on y pense, l'aptitude n'est qu'une faculté qui s'acquiert au moment, en quelque sorte, et qui n'est qu'une conséquence aussi a posteriori de la sélection. Si vous dites la survie du plus apte, vous sous-entendez un élève ou un public, il faut être apte avant que d'être sélectionné. C'est met un peu la charrue avant les bœufs, en quelque sorte. L'aptitude ou l'adaptation n'est qu'une conséquence rétrospectivement perçue par nous d'un phénomène de sélection. Donc toutes ces formules, une des difficultés, c'est de ne pas se laisser aller aux formules, journalistiques un peu rapides. Donc si on dit succès reproductif différentiel, alors évidemment c'est moins sexy, je vous l'accorde, mais ça pointe tout de suite cette idée centrale de la sélection qui est que, premièrement, il y a des variants. À l'intérieur des individus qui se reproduisent entre eux, il y a des variants portés par plusieurs individus. Chaque variation est, est représentée par plusieurs individus qui la portent. Deuxième constat, le vivant est sélectionnable. Darwin voit bien ce qui se passe chez les horticulteurs et les éleveurs. Les horticulteurs et les éleveurs montrent par leur travail que ce qu'on appelle une espèce se laisse travailler, est malléable, est sélectionnable. Donc c'est ce qu'on appelle la sélectionnabilité. Troisième constat, il y a potentialité dans chaque espèce à une surpopulation, une pullulation, et que dans les milieux naturels, c'est pas en dépit de ce potentiel de pullulation, ça n'est pas dans les milieux naturels une seule espèce hégémonique que nous trouvons, mais bien au contraire, une multitude d'espèces en cohabitation. Et la déduction faite par Darwin à ce moment-là, c'est que c'est bien en dépit du potentiel de chacune à pulluler qu'elles se retrouvent toutes contraintes dans le même milieu en cohabitation. C'est donc que chaque espèce, forcément, représente une contrainte pour la voisine et que ce qui reste des variants dans la nature actuelle, c'est ce qui est toléré momentanément par le milieu. Alors pas seulement les autres espèces, par voie d'extension, évidemment, les conditions physiques et chimiques du milieu, hygrométrie, température, ensoleillement, et j'en passe. Donc il y a des variants qui, dans les conditions du milieu qui sont là, laissent plus de petits à la descendance que d'autres. Et en quelque sorte, si le milieu est suffisamment stable, ces variants restant les mêmes, votre population va avoir un changement dans sa totalité, c'est-à-dire qu'un variant aura atteint une fréquence de 100% dans la population. Mais le vivant est altéré en permanence. Le vivant est altéré en permanence et n'oubliez jamais que ce n'est pas parce qu'un variant atteint une fréquence de 100% que c'est fini. Le même caractère sur lequel on détecte une variation peut lui-même être altéré à nouveau et redevenir une nouvelle altération qui est cette fois-ci minoritaire. Bref, le vivant ne cesse d'être altéré en permanence. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Succès reproductif différentiel qui explique par les conditions du milieu qu'on ait en même temps une fonctionnalité, j'y reviendrai à la fin, l'aptitude des organismes. La grande question que se pose Darwin et sur laquelle discourait William Paley, théologien en 1802, à travers la théologie naturelle, une des grandes questions, c'est pas la seule, mais une des grandes questions, c'est d'où vient l'adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature. Eh bien, si la survie la survie des variants est obtenue justement en raison de leur fonctionnalité dans un milieu donné, la fonctionnalité est de proche en proche, même si elle change sur des temps longs, la fonctionnalité reste une condition absolument requise pour la survie. Alors quand on vous dit à ma brave dame, comment voulez-vous qu'on vous fasse un œil par hasard ? C'est tellement complexe un œil, c'est tellement fonctionnel. Le rayon de courbure du cristallin est pile poil ce qu'il faut pour que les rayons lumineux se focalisent sur la rétine. Oh, c'est trop merveilleux. Il faut bien voir que depuis la première cellule photosensible jusqu'à l'œil tel qu'on le connaît chez un vertébré, il faut penser à un processus historique dans lequel chaque étape micro modifiée ne doit sa survie précisément qu'à sa fonctionnalité. Et que donc l'adéquation entre la forme et la fonction dans la nature n'est pas une merveille qu'il faut penser avec le hasard au sens de hasard-chance, coup de chance, on obtiendrait un œil ex nihilo à partir de rien. Évidemment, ce n'est pas du tout ça. Il y a un processus historique très très graduel qui fait que la fonctionnalité peut être constatée a posteriori, bien que les micro-modifications subies par ces yeux successifs soit dû au hasard. On reviendra sur le hasard cet après-midi, je le sais, de toute façon. Alors voilà, sélection, et en contrepoint de la sélection, j'en termine là sur la sélection, c'est important, évidemment, parler de la dérive, car il fut une époque au XXe siècle où les naturalistes étaient pan-sélectionnistes, c'est-à-dire toute structure du vivant nous arrivant jusqu'à aujourd'hui ayant été pensée comme nécessairement sélectionnée. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. La théorie darwinienne de l'évolution moderne, la théorie moderne de l'évolution est darwinienne en ce sens qu'elle a gardé, bien sûr, le modèle variation-sélection, transmission de génération à l'autre des caractères nouveaux et anciens. Ceci reste dans la théorie d'aujourd'hui, mais cette théorie a eu des compléments, elle a été amendée. La dérive génétique, c'est simplement cette idée que vous pouvez avoir des variants dans des petites populations qui atteignent une fréquence de 100% uniquement par des effets stochastiques de tirage aléatoire. Si les effectifs sont petits, vous augmentez les chances d'avoir des variants qui atteignent par hasard une fréquence de 100%. Bon, eh bien, ce raisonnement-là, il n'est pas. Je vous renvoie à la lecture de Kimura. Ce raisonnement-là, je suis très content que Pascal ait présenté les équilibres ponctués comme un raisonnement éminemment darwinien. Ça n'était en aucun cas une réfutation de Darwin, comme les journaux aiment trop souvent le faire. Kimura, c'est pareil. Kimura, ce n'est pas la réfutation de Darwin. C'est un raisonnement sélectif qui gagne en finesse. Tout le raisonnement de Kimura, quand on lit sa lecture, est un raisonnement qui s'insère dans la théorie darwinienne de l'évolution. Il n'a jamais réfuté la sélection. Il a simplement dit, nous avons des façons plus fines de regarder la sélection et qu'est-ce qui, en contrepoint, pourrait, comme variation, pourrait ne pas être l'objet nécessairement d'une sélection. Mais sélection et dérive travaillent ensemble aujourd'hui au sein de la théorie darwinienne de l'évolution. Voilà pour les spécialités. Maintenant, on va aller voir les pièges qui sont beaucoup plus, alors là je suis désolé, mais philosophique, hein, quand on enseigne la théorie de l'évolution. Voilà toute une liste de choses contre lesquelles on doit lutter. Et nos phrases nous tendent des pièges alors qu'on croit bien faire. Excusez-moi, c'est touffu, mais on va les voir rapidement. Et de toute façon, je vous les laisse dans un PDF. Alors, si on veut faire de la biologie aujourd'hui, il faut lutter contre l'essentialisme spontané. Il faut lutter contre notre anthropocentrisme spontané, contre les restes de scalisme, scala naturae, hein, la fameuse échelle des êtres qui a beau dater de Leibniz mais qui reste encore dans les têtes, celle qui met les êtres vivants sur un seul axe futile de complexité croissante, mais la raison pour laquelle l'homme se trouve en haut sont des raisons de valeur, pas des raisons de fait. Et les sciences ne gèrent pas les discours de valeur aujourd'hui. Ce n'était pas le cas peut-être il y a 3 siècles, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Notre contrat n'est plus de fournir à dessein des confirmations sur des systèmes de valeurs. C'est pas que c'est nié, hein, mais ça relève du champ moral, politique, voire religieux, mais ça n'est pas du boulot des scientifiques que de corroborer des discours de valeurs. Même s'il y en a qui commettent des entorses tous les jours. Là, je vous parle du contrat, je vous parle pas de la réalisation du contrat. Dans la réalisation, bien sûr, il y a des entorses, je ne suis pas naïf. Évolution égale progrès, là aussi, confusion entre discours de fait et discours de valeurs. Créationnisme spontané, ça c'est beaucoup plus subtil, vous le trouvez dans les documentaires télévisés qui parlent d'évolution. Et les métaphores malheureuses qui sont véhiculées par les scientifiques eux-mêmes. Ensuite, vous avez des difficultés épistémologiques diverses qui relèvent de la réception par le public d'un certain nombre d'outils intellectuels, la parcimonie, la finalité, le statut des théories en sciences, le hasard, les régimes de preuves en sciences, le statut des ancêtres et des fossiles. Il y a effectivement une liste de difficultés qui chacune vous tente des pièges en quelque sorte. Alors ça c'est juste un résumé de ce qui va suivre, j'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais on aura le temps d'en reparler dans la journée. L'essentialisme, je vais très vite. Quand j'étais petit, on m'a fait dessiner un animal et on m'a fait légender les pièces de cet animal. Faire renouer l'observation avec la mise en mots de la nature. Seulement, la mise en mots, elle n'est pas explicite, à l'école primaire que j'ai faite, en tout cas. On m'a fait dessiner cet animal, légender les pièces, j'ai appris du vocabulaire anatomique, on m'a dit « ceci est un insecte ». Mais on n'a jamais dit quelle était la relation de cette opération-là et de « ceci est un insecte ». Rien n'empêchait un gamin de penser que cet animal a 6 pattes parce que c'est un insecte. Alors que le scientifique, lui, vous m'avez compris, lui, il dit « c'est un insecte parce qu'il a 6 pattes ». Le scientifique est nominaliste. Les concepts ne sont pas dans la nature, les concepts, c'est nous qui les fabriquons. Quand on fait de la classification, on met de l'ordre dans nos têtes. On ne met pas de l'ordre dans la nature. Dans la nature, il n'y a que des individus. C'est de l'ordre dans notre tête dont on a besoin. Insecte, c'est un concept qui regroupe 975 000 espèces. Tous les insectes ne se donnent pas les pattes dans la nature pour faire la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ne confondons pas nos concepts et les objets matériels qu'ils désignent. si nous sommes essentialistes, ça c'est une rupture profonde, hein, vous ne soupçonnez pas l'importance, y compris dans l'enseignement, de cette rupture encore aujourd'hui. Passer de l'essentialisme linéaire, où Dieu avait créé toutes les espèces en une seule fois, et dès lors, s'il y avait un plan divin, chaque individu portait l'essence inscrite, effectivement, dans la volonté divine. Sous ce mode-là, Linné avait, en quelque sorte, qualifié de caprice divin la variation dans l'espèce. Vous ne pouviez pas penser l'évolution si vous étiez essentialiste. Parce que faire évoluer, faire transmuter une espèce en une autre, c'est que vous avez une rupture d'essence, là, à ce moment-là. Et que là, si l'essence, elle est dogmatiquement pensée comme le fruit d'une création, alors il n'y a pas possibilité de rupture. Darwin a tourné le dos aux essences. Et c'est pour ça que le premier phénomène biologique pour Darwin, c'est la variation. Et c'est grâce à l'importance accordée à l'invariation intraspécifique qu'il a pu penser l'évolution. Évidemment, Lamarck a pensé l'évolution aussi, peut-être un peu moins d'ailleurs avec la variation, mais les différences de besoins et l'aptitude des différents individus à remplir un besoin que leur imposait un milieu étaient une façon de penser la variation également chez Lamarck. Revenons à l'essentialisme. Donc, si vous dites qu'il a si peur parce que c'est un insecte, la boîte insecte transcende la réalité matérielle des individus qu'elle désigne, et vous ne pouvez pas faire de biologie là-dedans. Mais pourtant, dans nos publics, c'est une difficulté, et nos phrases le sont parfois essentialistes. Un gamin de CM2, dans la galerie de paléontologie à Paris, devant mon collègue Daniel Gouget, qui leur présentait l'iguanodon, je tiens ça de Daniel, et cette question-là, je l'ai déjà eue, donc je pense que Daniel témoigne de quelque chose qui est représentatif. Daniel présente l'iguanodon à une classe de CM2 et une main se lève. Et comment avez-vous fait pour découvrir qu'il s'appelait comme cela? Et moi, une question dans un grand public plusieurs fois posée. Pourquoi est-ce l'homme qui a su parler et réfléchir? L'entité homme préexiste, en fait, dans cette question, à l'aptitude à marcher, à réfléchir et à parler. Hein. Donc nous avons des questions qui portent en elles-mêmes en germe un essentialisme qui s'ignore. Mais si on ne dépiote pas cet essentialisme qui s'ignore, on ne peut pas penser la biologie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle un des premiers motifs de changement de programme à l'école primaire dans les années 2000 et au collège aujourd'hui, c'est remettre en ordre tout simplement des opérations élémentaires de manière à ce que ces opérations ne favorisent pas l'essentialisme spontané des élèves. Il ne s'agit pas de faire de la phylogénie au collège, hein, ce n'est pas ça l'enjeu. Les programmes aujourd'hui, c'est distinguer d'abord la prédétermination et la classification, parce que je ne vous dis pas, elles étaient mélangées. Alors on savait vraiment pas ce qu'on faisait quand on faisait de la classification dans la décennie précédente et les décennies précédentes à l'école élémentaire et secondaire. Deuxièmement, si on fait de la classification, c'est découvrir tout simplement que les ensembles, la mise en ensemble d'organismes, elle est justifiée par la présence d'attributs et non pas par une entité transcendante. La façon dont vous tous ici, dans cette salle, avez appris la classification à l'école, ne vous a pas permis de dissocier les deux opérations. En apprenant par cœur des séries de taxons, rien ne nous empêchait de penser que ces taxons étaient transcendants. Et vous rigidifiez vous-même la nature. Si je vous dis qu'il n'y a plus de poissons, vous êtes scandalisé, vous dites « vous foutez de moi, la truite elle est toujours là dans la rivière hein ». Et ça, je l'ai entendu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la non-dissociation du concept inventé par les hommes de la réalité matérielle que ces concepts contiennent ou désignent, la non-dissociation... Vous est responsable d'une terreur véritablement dans le grand public quand vous dites les scientifiques n'utilisent plus le concept de poisson. Et déjà, quand je dis concept, j'ai déjà clarifié les choses. Hein. Si je vous dis il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de reptiles, vous êtes terrorisé. Si je vous dis les scientifiques n'utilisent plus le concept de poisson, c'est déjà plus sophistiqué, on sait que poisson est un concept. Et de quoi parle-t-il ce concept? C'est justement toute la question. Voilà. Alors ceci est un insecte, mais en fait il y a un autre niveau sur lequel on peut travailler dans l'enseignement. Ceci est un insecte, mais ceci n'est pas un insecte. Ceci est une image qui représente un individu que les scientifiques ont relié au concept d'insecte. Je rejoins ce que je viens de dire précédemment. Ceci est une image. Alors vous voyez un peu le boulot qu'il y a à faire, mais seulement quand je vous dis le boulot qu'il y a à faire, c'est pas vouloir être provocant, c'est simplement retravailler à partir de ce qui est écrit dans des livres scolaires. Voilà ce que j'ai trouvé dans un livre qu'on m'a demandé d'évaluer. Pour un éditeur de livres scolaires, une phrase tirée des programmes récents. Au cours de l'évolution, des groupes entiers naissent, évoluent et s'éteignent. Ils se succèdent dans le temps. Qui irait contester cette phrase? Eh bien, cette phrase, en fait, elle est terriblement confuse. En fait, elle est même fausse. Rigoureusement parlant, elle est fausse. Au cours de l'histoire de la systématique, là je suis d'accord avec vous, des groupes entiers naissent, évoluent et s'éteignent. Ils se succèdent dans le temps. Au cours de l'histoire des sciences de classification, les groupes évidemment naissent et s'éteignent. Au cours de l'évolution, ce n'est pas les groupes qui s'éteignent et qui naissent, c'est nous qui fabriquons les groupes, je vous le rappelle. Les groupes, ils sont dans nos têtes. Au cours de l'évolution, des attributs naissent, évoluent et s'éteignent, rigoureusement parlant. Ce que j'appelle des attributs, c'est ce que vous appelez certainement des caractères. Nous voyons des caractères émerger dans l'histoire grâce aux registres fossiles ou grâce à des inférences plus compliquées. Ces états de caractère peuvent évoluer et effectivement s'éteindre. Et j'inclus là-dedans, pourquoi je parle du caractère ? Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un fossile toujours pour faire cette progression. Il suffit de reconstituer un arbre pour voir des attributs, se correspondant par homologie, se succéder dans le temps et donc se transformer tout doucement. Au cours de l'évolution, des attributs naissent, évoluent, s'éteignent. Je vous renvoie au Pour la science sur les plumes, où vous voyez une très jolie reconstitution de plumes de dinosaures théropodes. On voit la protoplume sans rachis central. On voit ensuite une plume avec rachis central, mais médian. Et ensuite une plume dans l'arbre. Tout ça, c'est dans l'arbre. On voit les différentes sortes de plumes apparaître. Voilà des attributs dont on peut reconstituer effectivement l'évolution, leur apparition et éventuellement leur disparition. Donc c'est qu'on a oublié entre-temps une discipline qui s'appelle la systématique, qui a pour objectif de relier des objets, des concepts et des noms. Et les systématiciens savent en principe que les taxons qu'ils fabriquent, ils les fabriquent dans leur tête. Ça ne veut pas dire que ces taxons soient artificiels au regard des objets qu'ils désignent, bien sûr. Ils ont une cohérence, ces taxons. Mais attribuer une vie évolutive aux taxons, ça a été le grand péché des systématiciens eux-mêmes, dans la figure que Pascal a montrée, les arbres ventrus, souvenez-vous, les arbres ventrus que vous avez tous vus dans les livres, où on vous disait, les mammifères descendent des reptiles, les reptiles descendent des amphibiens, les amphibiens descendent des poissons. Relation d'ancêtres à descendants, ça n'est plus ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, dans nos arbres, mais surtout, relation d'ancêtres à descendants entre groupes de grande ampleur, comme si ces groupes avaient une réalité évolutive en eux-mêmes. Dans la dynamique de l'évolution, j'entends. Dans la dynamique de l'évolution. Bon, ça, c'est un débat, c'est très difficile à gérer, et c'est un débat qui n'est même pas clos, je ne prétends pas qu'il soit clos, dans la communauté des scientifiques eux-mêmes. Y a des niveaux de sélection, ça serait très compliqué à aborder, il y a des niveaux de sélection qui font qu'on peut discourir sur le succès reproductif, justement, de groupes qui portent des attributs responsables d'un succès sélectif. L'autre grand écueil, et même piège tendu à l'enseignement de l'évolution, alors ça c'est majeur, c'est la confusion entre les discours de valeur et les discours de fait. Vous savez très bien que si vous dites dans une classe sans prévenir du type d'assertion que vous donnez, l'homme est un animal, l'homme est un singe, la moitié de la classe refuse l'assertion. Parce qu'il n'y a pas, on ne donne pas à nos élèves, la plupart du temps, nous ne donnons pas la possibilité de faire une distinction entre des discours de fait et des discours de valeur. Évidemment, pour le scientifique, l'homme est un animal, l'homme est un singe, c'est une convention taxonomique reliée à des attributs, précisément. On est dans du partage d'attributs, on est dans du constat d'attributs, on n'est pas dans un discours de valeur. Singe, ce n'est pas une insulte pour un scientifique. Animal, ce n'est pas une insulte non plus. Mais il faut bien voir que nos élèves reçoivent ça dans un contexte culturel où les trois grands monothéismes qui dominent la culture encore aujourd'hui a passé son temps pendant 2000 ans à dissocier l'homme de son animalité, à dégrader l'animalité et surtout à dissocier l'homme du singe. Quoi de plus vil qu'un singe dans la culture monothéiste. Darwin, en son temps, a rencontré ces problèmes de son vivant dans la façon dont la société anglaise a reçu son travail. Et si vous assignez à la science un discours prescripteur en termes de valeurs, eh bien, on est en plein dans la confusion qui est à l'origine du créationnisme. Les sciences aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, n'ont plus comme contrat professionnel collectif de fournir, de servir un discours de valeur. Si l'homme est à la surface de la sphère dans Espèce d'espèce, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Espèce d'espèce lundi soir sur France 5, si l'homme est sur la surface de la sphère du vivant, ce n'est pas parce que la sphère du vivant nie toute valeur à l'homme, c'est que le discours simplement n'est pas celui-là, tout simplement. Le tronc central de l'arbre de Haeckel que Pascal a montré tout à l'heure, vous savez, l'arbre central avec l'homme tout au bout, et un tronc central. Il y avait un tronc central précisément parce qu'on était à une époque où il y avait encore un mélange dans les discours de fait et les discours de valeur. Aujourd'hui, par chance, on a eu les moyens au XXe siècle d'évacuer les discours de valeur dans la reconstitution des relations entre les êtres vivants. L'arbre phylogénétique ne fait que vous dire qui partage quoi avec qui, et ce n'est qu'une question de fait. Il n'y a pas de hiérarchie de valeurs dans un arbre phylogénétique, alors qu'il y en avait une dans l'échelle des êtres de Leibniz, de Bonnet par exemple, et il y en avait une, y compris même dans certains arbres du XXe siècle. Alors l'intelligent design aux États-Unis a des autoroutes avec ça à prendre. Citation, hein, 80% des Américains sont choqués, disent-ils, que soit enseignée à l'école publique la théorie darwinienne de l'évolution qui affirme que la vie d'un homme n'a pas plus de valeur que celle d'un ver de terre. Fermez les guillemets. Confusion entre discours de valeur et ce que dit une théorie scientifique. Et donc les Américains se trouvent légitimés à rejeter une théorie scientifique parce qu'on lui assigne un discours de valeur. Évidemment, cette citation est une manipulation. Il n'appartient pas du rôle des théories scientifiques aujourd'hui de s'énoncer dans le champ des valeurs. Ce que dit la théorie darwinienne de l'évolution, c'est que si l'homme est une réalité de ce monde, une réalité physique de ce monde, alors dans la légitimité que se réserve la science du discours sur le physique, eh bien l'homme a une origine biologique, et que pour trouver cette origine biologique, les méthodes avec lesquelles on travaille sur l'homme sont les mêmes que celles avec lesquelles on travaille sur le ver de terre. C'est un discours de méthode, pas un discours de valeur. Il n'y a pas de méthode particulière en phylogénie lorsqu'on s'adresse à la lignée humaine, si vous voyez ce que je veux dire. Tout d'un coup, on ne change pas de méthode parce que c'est l'homme. Tout simplement parce que l'homme subit en science une naturalisation, mais qui est la naturalisation qu'exige la science pour tout objet qui fait partie du monde physique. Ça n'est pas une négation des valeurs. Les sciences ne s'énoncent pas, encore une fois, j'insiste, sur les discours de valeurs. Si on souligne ça pour nos élèves, je pense qu'on gagne beaucoup sur le terrain des confusions, justement, ou justement, si on gagne peut-être beaucoup sur les motifs pour lesquels des élèves pourraient refuser la théorie de l'évolution parce qu'ils s'imaginent qu'elle s'exprime dans le champ des valeurs. Bon, convention taxonomique, l'homme est un singe parce qu'il a un solos frontal. Vous faites relier l'homme est un singe avec un observable. Et si on relie un observable, déjà, on laisse de côté les problèmes de représentation de valeurs. Ça n'a pas toujours été simple. Pascal Duris l'a bien dit, hein, il fut une époque où les sciences étaient en continuité avec des discours de valeurs. Ça, c'est le passé, mais à la charnière du 18e, 19e siècle, par contrat, je dis bien par contrat, la science s'autolimite, elle ne parle plus en principe de valeurs. Évidemment, je vous dis bien, c'est plus compliqué que ça. Postérieurement à ce nouveau contrat, des scientifiques ont dérapé, bien sûr, mais collectivement, par contrat, c'est plus notre travail. Malheureusement, ce qu'on a sorti par la porte revient par la fenêtre. Gould a raison de dire que l'évolution vue comme un progrès est une des raisons pour lesquelles on a mis, y compris dans un évolutionnisme bon teint au XXe siècle, les mammifères en haut d'une série de galettes qui s'empilent les unes sur les autres. Et Pascal Pic vous dirait les valeurs reviennent tout le temps quand on fait de la diffusion des connaissances. Hein, c'est que quand on vous montre cette espèce d'évolution linéarisée de force, où on ne voit pas de buissonnement, on voit un australopithèque aboutir à un homme, c'est jamais une femme qu'on montre. Et donc derrière se cache aussi des systèmes de valeurs. La femme, elle continue à nettoyer par terre. C'est beaucoup plus pernicieux qu'on ne croit. Aujourd'hui, l'éducation au développement durable est en train de transformer nos enseignements de sciences naturelles tout doucement en enseignements prescripteurs de comportement. Je suis de ceux qui pensent qu'il est important de dissocier le moment où on énonce des faits du moment où on prescrit des comportements dans l'éducation au développement durable. Je vous donne un dérapage qui a eu lieu il y a 20 ans pour vous donner un exemple. Il ne faut pas être raciste, nous disait Albert Jacquard il y a 20 ans, parce que les scientifiques ont montré que les races n'existent pas. Il n'y a pas plus mauvaise raison de ne pas être raciste. Je vous fais le coup à chaque fois, mais ça permet de bien réfléchir et de faire retourner la phrase. Si les scientifiques avaient démontré que les races existent, alors aurait-il fallu être raciste pour autant? Le dérapage qui est là, c'est le même dérapage que ceux que font l'intelligent design, si vous voulez, les gens de l'intelligent design. C'est qu'il ne doit pas y avoir de relation légitime entre des questions de fait et des questions de valeur. Les bonnes raisons de ne pas être raciste, il faut les trouver dans le champ moral et politique, mais laissons la science tranquille. Les scientifiques, ils doivent être laissés libres de discourir sur y a-t-il des races chez l'homme ou pas. Et quand même il y en aurait, de toute façon, ça ne justifierait pas en droit un quelconque racisme que ce soit. Donc, même chose, et ça c'est plus subtil, il ne faut pas jeter le sac plastique au sol parce que les sciences ont montré qu'il mettait 3 siècles à se dégrader dans un sol. Eh bien, ce dérapage-là est le même. La bonne raison... Alors, imaginez que le sac plastique mette 3 semaines à se dégrader. Est-ce que alors il faudrait jeter des sacs plastiques par terre? La bonne raison de ne pas jeter... Le bon motif de ne pas jeter de sacs plastiques par terre, c'est la bonne question, c'est quel monde laissons-nous à celui qui vient se balader en forêt 3 semaines après? Quel monde laissons-nous à la génération suivante? Quel monde laissons-nous aux hommes dans 3 générations? Mais... La question je ne vais pas dire qu'elle n'a aucun rapport, mais le comportement n'est pas légitimé par une question de fait sur le temps de dégradation du sac plastique, si vous avez bien compris. Donc on a un dérapage tout doux qui s'exprime partout, mais il a tendance à se répandre. Je ne dis pas qu'il ne faille pas prescrire des choses, mais ça ne doit pas être au cours de science. Il faudrait que ce soit un petit peu séparé pour que les élèves n'assignent pas à la science un discours prescripteur de comportements moraux. Parce que ce n'est pas notre travail, nous, les scientifiques. Une science prescriptrice de comportements moraux est une science piégée. Elle se retrouve pieds et poings liés. Si vous acceptez cette idée que les scientifiques sont, en s'emparant de faits, des prescripteurs de discours moraux, vous empêchez la science d'avoir la liberté, demain, de découvrir quelque chose qui ne serait pas moral. Confusion fait valeur, l'anthropocentrisme, je passe très vite. Un monde égocentré théologique, un monde égocentré scientifique. Alors le monde égocentré... s'exprime à travers des concepts un peu partout dans nos productions intellectuelles. Les arts premiers, la world music, la banlieue, la province. Ici, je suis en province, vous avez compris, hein, les conceptions égocentriques. Alors, évidemment, en science, si nous forgeons des concepts qui ont pour objectif de circonscrire les objets que ces concepts désignent, et je dis bien les circonscrire, c'est la première intelligibilité dont nous avons à rendre compte sur le monde réel. Avoir des concepts qui ne font pas semblant de parler de ce qu'ils désignent, mais qui parlent vraiment de ce qu'ils désignent. Si vous dites un vertébré, vous ne dites rien sur un escargot ou un ver de terre. Quand vous dites qu'ils n'ont pas de vertèbre. Quand vous justifiez le concept par une absence de vertèbre, la vertèbre, elle n'est pas dans le groupe, elle est dans l'homme, la vertèbre. En fait, on parle de l'homme. C'est ce que j'appelle un concept qui fait semblant de parler de ce qu'il désigne. En science, on a besoin de véritablement parler de ce que l'on désigne. Et donc, on évitera évidemment ces termes égocentrés. Mais attendez, si c'est aussi facile avec les invertébrés ou avec les arts premiers, c'est moins facile quand on regarde la biologie que vous avez reçue à l'école. On vous a parlé de prokaryotes, de prosimiens, de protacanthoptérygiens. Eh bien, tous ces groupes en pro sont des groupes en devenir. Ils ne sont pas justifiés par rapport à ce qu'ils possèdent, mais par rapport à ce à quoi ils donneront naissance demain. C'est ce qu'on appelle les groupes marchepieds. C'est ce qu'on a appelé les grades dans la biologie du XXe siècle. Et les arbres dont vous a parlé Pascal Tassi tout à l'heure, les arbres phylogénétiques d'aujourd'hui, pas celui-là, hein, mais les cladogrammes, enfin les phylogénies d'aujourd'hui, se sont débarrassés, en principe, dans leur projet classificatoire, se sont débarrassés de ces grades. Normalement, on ne fabrique plus des groupes qui ne parlent que vraiment de ce que les membres du groupe possèdent en propre, je dis bien en propre, et pas... on ne met pas dans un groupe des organismes parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Alors la sortie des eaux, les poissons, hein, c'est typiquement des vertébrés qui ne sont pas sortis des eaux. Ils sont ensemble parce qu'ils n'ont pas fait un truc. Évidemment, le truc, c'est nous qui l'avons fait. Vous voyez un petit peu le problème. Alors je vous passe la sortie des eaux, il faut aller vite. Le scalisme, j'évite parce que c'est assez évident. Le scalisme, c'est, vous savez, l'échelle des êtres. Hein, il y a une échelle avec des barreaux... successifs, positionnés les uns sur les autres, et ce sont des au démarrage, il s'agit d'une échelle fixiste, il faut le préciser, hein, c'est pas une échelle où on passe d'un barreau à l'autre. Je vous montre cette figure, c'est pas une échelle cette figure, mais je vous la montre parce que encore aujourd'hui, dans des musées, vous avez des gens qui lisent cette figure en le lisant avec l'échelle des êtres. On se dit, en bas, il y a les moins évolués, et en haut, il y a les plus évolués. Et ça serait comme une échelle qui serait devenue évolutionniste aujourd'hui. Hein. Donc là aussi, on a une difficulté. L'échelle de Charles Bonnet qui est là, excusez-moi, ça va vite, mais l'échelle de Charles Bonnet qui est là, eh bien, elle est fixiste. On ne passe pas d'un barreau à l'autre. Et alors là, on a un espèce de morphing entre une échelle et un arbre. C'est un peu compliqué, l'épistémologie de cette époque-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'échelle. Cet arbre ne fait que vous montrer qui partage quoi avec qui. Les métaphores malheureuses dont les scientifiques sont responsables. J'en cite 3. J'en cite 2 d'ailleurs. Les métaphores malheureuses, la stratégie adaptative. Méfiez-vous de ça, c'est glissant. Le mot stratégie vient de la théorie des jeux qui a été importée par les scientifiques eux-mêmes dans la pensée évolutionniste au XXe siècle. La théorie des jeux, ça prend naissance en économie et en sciences sociales pour modéliser les comportements collectifs d'acteurs qui finalisent leurs intentions. Je dis bien qu'ils finalisent leurs intentions. Il y a des coûts et il y a des gains. Et c'est une importation métaphorique en évolution pour parler rétrospectivement de ce qu'on pourrait penser aujourd'hui comme étant la nature, penser en termes de coûts et de gains sélectifs cette fois-ci. Mais ça glisse très vite, et c'est le problème des métaphores en science, ça glisse très vite. Autant les scientifiques savent de quoi ils parlent quand ils parlent de stratégie adaptative entre eux, mais j'ai vu des collègues à moi, devant un grand public, je dis bien devant un grand public, dire stratégie adaptative sans même parler de quoi qu'est-ce qu'ils entendaient par là. La stratégie n'est qu'une métaphore rétrospective. Mais le public, lui, qu'est-ce qu'il reçoit comme image ? Il voit des espèces qui se réunissent autour de la table, puisqu'il dit bon, alors il y a des milieux qui se libèrent, la stratégie pour aller coloniser le milieu, là. C'est terrible, ces métaphores. Donc, la stratégie adaptative, elle n'est que descriptive, mais ça glisse très vite, même au sein de la théorie des jeux, lorsque les métaphores, qui ne sont que descriptives au départ, acquièrent tout doucement une vocation explicative. Et il y a toute une épistémologie à faire sur la théorie des jeux, à mon avis, en évolution, parce que c'est pas clair, cette affaire. C'est pas clair. Métaphore tautologique. La nature a fait ceci, la nature a fait cela. La nature, sujet du verbe, c'est une difficulté. Ça, je pense que vous vous en doutez. La nature, c'est ce qu'on est censé expliquer. Alors, si vous expliquez la nature par la nature, on n'a pas dit grand-chose. Mais pire que ça, des métaphores que j'appelle du créationnisme spontané, l'évolution a doté le crabe d'une carapace. J'ai trouvé ça dans un documentaire télévisé qui se disait honnêtement évolutionniste. Alors regardez bien la phrase. L'évolution a doté le crabe d'une carapace. Doté. L'entité qui a reçu la carapace était crabe avant d'avoir reçu la carapace, puisque l'évolution a doté le crabe d'une carapace. Et donc, cette phrase, elle est complètement antisystématique. C'est que le machin qui a reçu la carapace était crabe avant de l'avoir reçu. Or, pour nous, les systématiciens, le crabe n'est crabe que subséquemment au constat du gain de sa carapace. Donc on a une inversion de la vapeur, là, c'est-à-dire on a mis la charrue avant les bœufs. Et puis l'évolution, je vous ferai remarquer que là, alors c'est pas explicite, mais on a l'impression qu'elle est suspendue au-dessus du crabe et qu'elle distribue, elle dote des tickets. Bon, je vous vois sourire, vous avez compris. L'évolution, c'est la dynamique même du vivant. C'est pas quelque chose qui est au-dessus. Donc là, on a une transcendance, en quelque sorte, qui tend à s'exprimer. C'est pour ça qu'on pourrait appeler ça un créationnisme spontané. Il y a un agent externe au crabe qui dote le crabe de quelque chose. Donc vous voyez, ça se glisse, même dans des phrases bien intentionnées, c'est pour ça que c'est pas simple du tout. Et je crois pas vous provoquer ou exagérer, je suis convaincu, plus on fait de la diffusion des connaissances et plus vous êtes confronté à des élèves, plus vous êtes convaincu que dans vos phrases, dans la grammaire, l'évolution est rétive à la grammaire elle-même. C'est très difficile de bien parler d'évolution. Problème épistémologique, régime de preuve, très vite. L'évolution est discutable car on ne peut pas reproduire ses expériences. On n'enseignera jamais proprement la théorie de l'évolution si on ne dit pas qu'il y a deux régimes de preuve. Alors ne lisez pas ce tableau, je vous le donne en PDF si vous voulez, ça sera dans un bouquin qu'on est en train de préparer. Il y a deux modes de science dans la théorie de l'évolution. Il y a deux modes d'administration de la preuve. Pour faire vite, nous avons des sciences expérimentales où vous pouvez reproduire à la paillasse. D'abord, vous pouvez tester empiriquement l'instabilité du vivant et valider le modèle variation-sélection avec des cages à population de drosophiles ou avec des bactéries ou avec des champignons ou avec des virus. Si l'évolution ne faisait pas partie de la vie de tous les jours, il n'y aurait pas d'industrie agronomique, il n'y aurait pas d'industrie biomédicale, pharmaceutique, il n'y aurait pas d'industrie phytosanitaire. Pourquoi est-ce qu'il faut galoper après les antibiotiques ? Hein, vous connaissez la réponse, variation-sélection justement. Donc nous avons un mode expérimental, l'évolution elle s'expérimente à la paillasse et là c'est des raisonnements inductifs et hypothético-déductifs qui sont à l'œuvre. Mais nous avons aussi des sciences dites palétiologiques, c'est-à-dire des sciences historiques, où la démonstration ne se fait pas à la paillasse. La démonstration, elle se fait par accumulation, puis par monstration. Je reprends les termes d'Armand de Riclès. Je rentre pas dans les détails épistémologiques qui sont là, mais pour faire très vite, les sciences historiques, ce sont les sciences qui travaillent sur l'interprétation de ce qui n'a existé qu'une seule fois. Et c'est rétrospectivement, comme le commissaire de police, c'est en maximisant la cohérence des manifestations du réel d'aujourd'hui que vous inférez les conditions du passé qui ont donné naissance à ces manifestations. C'est l'épistémologie de l'historien, c'est l'épistémologie du commissaire de police. je reprends cette phrase. L'évolution est discutable car on ne peut reproduire, qu'on ne peut pas reproduire les expériences. La bataille d'Austerlitz est discutable car on ne peut pas reproduire les expériences. Qui dans la salle aurait l'idée de remettre en cause l'existence de la bataille d'Austerlitz ? Sous prétexte qu'on ne peut pas la refaire, qu'on ne peut pas l'expérimenter, sous prétexte même que le scénario de la bataille qu'on a aujourd'hui, il n'est pas complet. Il y a des pièces de puzzle qui manquent. Donc vous m'avez compris, il y a des sciences historiques et des sciences expérimentales au sein même de la théorie de l'évolution qui la soutiennent. Au demeurant, ce que je voudrais vous dire, c'est que, pour terminer sur cette question, c'est que les mécanismes de l'évolution sont expérimentables et reproductibles à la paillasse, mais les résultats de l'évolution, puisque ces mécanismes prennent place sur des individus qui n'ont existé qu'une seule fois et qui sont donc largement le fruit de la contingence, les résultats eux-mêmes sont contingents et ne sont pas reproductibles. Donc autant le mécanisme est reproductible, autant le résultat dans la nature n'est pas reproductible, historiquement parlant. Donc, vous voyez, c'est une affaire compliquée. Voilà un piège à déjouer. Je passe sur le statut des théories, puisque mon temps de parole est terminé. Ça, j'en parle souvent en formation d'enseignants. Cette confusion-là est-elle importante ? Confusion entre propriétés de nos outils d'inférence et celles des objets analysés. La nature est rationnelle, nous disait le cardinal Poupart, pour affirmer l'existence de Dieu. Eh bien, on peut rigoler de cette phrase. Ça, évidemment, la nature n'est pas rationnelle. La rationalité, c'est une propriété de l'observateur, c'est pas une propriété de l'observé. En quoi la nature serait-elle rationnelle ? Mais nous faisons la même chose lorsque nous disons « mais l'évolution est-elle parcimonieuse ?» On a vu dans l'histoire des sciences et au XXe siècle, des scientifiques récuser l'utilisation du principe de parcimonie en tant que critère de rétention d'un arbre plutôt qu'un autre. Parce que vous savez, nous les systématiciens, nous avons une foule d'arbres possibles et nous ne prenons dans cette foule d'arbres possibles que celui qui est le plus parcimonieux, c'est-à-dire celui qui implique le moins d'hypothèses de transformation évolutive possible. Et des gens se sont opposés à ce principe en disant « Attendez, vous ne savez même pas si l'évolution est parcimonieuse, alors vos arbres, qu'est-ce qu'ils représentent ?» Là, il y a aussi une confusion entre la propriété de l'observateur et la propriété de l'observé. La parcimonie, c'est une des parties de ce qu'on appelle la rationalité. C'est une propriété de l'observateur. C'est le principe d'économie d'hypothèses. Ça n'est pas une propriété de l'observé. Le fait d'utiliser le principe de parcimonie ne dit pas que nous supposons que l'évolution ait été parcimonieuse. D'ailleurs, on ne voit pas comment elle peut l'être. Enfin, c'est au moins aussi difficile à penser que la nature est rationnelle. Hein. J'ai envie de vous dire, le commissaire de police qui fait de la parcimonie ici, quand il reconstitue son meurtre, est-ce qu'il pense nécessairement que le meurtrier a ouvert le moins de portes possible, économisé son essence pour venir et tiré le moins de balles possible ? Vous avez compris qu'effectivement, la parcimonie, ce n'est pas une propriété de l'objet qu'on infère. Quelle finalité ? Alors ça, c'est un motif principal, je vais très vite. Confusion courante entre finalisme a priori et finalité conçue a posteriori. Alors, pour faire très vite, il faut, en évolution, faire la différence. Quand vous dites « l'œil est fait pour voir », il ne s'agit pas nécessairement d'une finalité cosmique conçue a priori. C'est pas que l'évolution soit animée d'un grand plan qui aboutisse nécessairement à l'homme. Effectivement, le finalisme a priori, le finalisme cosmique de Teilhard de Chardin avec le point oméga, ceci ne fait pas partie des sciences aujourd'hui, et surtout pas de la sélection naturelle. Vous vous doutez bien que si le modèle variation-sélection vous dit que la variation propose et le milieu dispose, compte tenu du fait qu'on ne sait pas de quoi le milieu demain sera fait, il n'y a aucune finalité à penser dans le mécanisme variation-sélection. C'est d'ailleurs le principal motif pour lequel une bonne partie des spiritualismes internationaux refusent la théorie darwinienne de l'évolution, parce que vous avez précisément cette absence de finalité cosmique inscrite au sein même du processus biologique. Et ceci est très gênant. Alors là, il ne s'agit pas seulement des créationnismes, il ne s'agit pas seulement de ceux qui nient l'évolution, mais il s'agit aussi de ceux qui acceptent l'évolution, mais qui voudraient qu'un grand dessein lui soit assigné. Et là, je pense au néo-théiardisme français, notamment. Alors, une finalité fonctionnelle, a posteriori, on peut en parler, si on en parle comme le fruit d'un processus de sélection. Vous pouvez dire « l'œil est fait pour voir », si vous, évidemment, vous précisez de quoi vous pensez. Vous pouvez dire « l'œil est fait pour voir » si la finalité est elle-même l'expression d'une fonction. En fait, fonction-finalité, c'est presque le même discours. Vous pouvez penser une finalité fonctionnelle sans pour autant que celle-ci ait été finalisée a priori dans son processus de mise en place, finalisé au sens finalisé cosmique, à large temps, si vous voulez. Donc, distinguer un finalisme a priori d'une finalité conçue a posteriori comme le fruit d'une sélection naturelle. Le hasard, je laisse tomber, je sais qu'on en parle cet après-midi. Le statut des ancêtres et des fossiles, je termine. Ben, j'ai terminé. Parce que, en fait, il faut quand même vous laisser le temps de poser des questions et d'échanger beaucoup plus que détailler les autres questions, notamment sur le statut des ancêtres. On y reviendra si vous le souhaitez. Merci.
Merci bien.
Tu veux ? Oui, j'avais une indication et une question. Sur les indications, c'est vrai que la distinction entre essentialisme et nominalisme est tout à fait essentielle pour comprendre tous ces phénomènes et aussi en histoire des sciences. On peut utiliser d'autres exemples dans des domaines autres que la biologie. Si on se pose la question de savoir combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel, on peut dire qu'il y en a 7 pour Newton, par exemple, et pour d'autres. Mais on peut aussi imaginer qu'il y en a une infinité. Et regardez l'exemple très récent du nombre de planètes dans le système solaire. Combien d'élèves se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils en ont oublié une, ils en ont compté que 8 au lieu de 9. Alors qu'aujourd'hui, depuis 2 ans ou 2 ans et demi, on est passé de 9 à 8. Et vous voyez qu'ici, au fond, on avait le sentiment que la nature avait dit qu'il avait créé d'une certaine manière 9 planètes dans le système solaire. En fait, tout ça est affaire de définition. Et sur la question, je suis d'accord avec la distinction valeur-fait, mais le terme de fait m'embarrasse. Et d'ailleurs, tu as utilisé après le terme d'observable, qui me va un peu mieux, parce que le terme de fait, l'histoire des sciences nous montre que ce qui est à un moment un fait scientifique est susceptible, et même presque toujours, d'être contredit par les travaux ultérieurs. Alors est-ce que, la question, c'est est-ce que vraiment on peut, en science, affirmer l'existence de faits au sens de faits scientifiques ?
Alors si c'est fait au sens de faits scientifiques, le fait brut, il est inintelligible, sauf, et encore, on met une phrase dessus, donc dès lors qu'on a mis une phrase dessus, il est déjà appréhendé. Bon, le fait scientifique, c'est le fait qui est un observable, mais habité par une théorie qui lui donne son sens. C'est bien, on est bien d'accord sur ce que tu appelles un fait scientifique, ça serait ça ? Un observable qui est habité par une...
Oui, mais ce serait ça, mais du coup l'opposition ou la distinction avec les valeurs serait peut-être moins stricte.
Oui, mais pour moi, les théories scientifiques, alors justement, je n'ai pas parlé du statut des théories, mais on pourrait en parler maintenant, elles ne sont pas redevables à l'introduction d'un discours de valeur. Elles ont comme fonction de maximiser la cohérence d'un certain nombre d'objets épistémologiques très divers, comme par exemple des faits, mais aussi des hypothèses qui sont encore à tester, des modèles, des formalisations mathématiques. Une théorie n'est pas du discours des valeurs, elle a pour fonction de maximiser la cohérence d'un grand nombre d'objets entre eux.
Je suis d'accord, mais je pense que le terme de fait, si, oui. Surtout si on lui accole derrière d'une manière explicite ou implicite l'adjectif scientifique, laisse sous-entendre qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui s'impose de soi.
Oui, alors un observable.
Tandis qu'observable, c'est déjà plus...
Oui, mais un observable, tu n'as pas dit qu'il y avait une théorie qui lui donnait son sens, déjà.
Eh oui.
Un observable, disons. Parce que... un observable, qu'est-ce que c'est ? Je repense à ce que dit Corinne Fortin à propos des cellules sous microscope. Corinne Fortin, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la représentation des élèves de terminale, de ce que c'est qu'une théorie scientifique. Et un observable, pour être énoncé, il a quelque part aussi besoin d'une représentation. Vous mettez je répète ce que dit Corinne, vous mettez des cellules... d'un épiderme d'oignon sous un microscope à des élèves, ou même les cellules de l'intérieur de la bouche, là, vous colorez un peu, qu'est-ce que vous voyez ? Bien, je pense que dans la salle, je ne sais pas, il y en a peut-être plusieurs qui ont fait cette expérience. Pour une bonne partie des élèves, s'ils n'ont pas reçu déjà dans leur famille l'image de ce que c'est qu'une cellule, c'est très difficile de savoir ce qui est observé sous le microscope. Donc, quelque part, ce que je dis là, ça trouve une solution à ce que tu dis, c'est que observable... Si, dès lors qu'il est énoncé, l'observable, il est déjà habité en quelque sorte d'une théorie qui lui donne son sens. Ça me permet d'ailleurs, et j'en termine là, hein, ça me permet de pointer quelque chose qui est une difficulté. Alors je pense que les enseignants commencent à être bien informés de ça, mais c'est une difficulté qui vient des discours créationnistes. Il n'y a effectivement pas de fait Il n'y a pas de fait tout seul pendu dans le vide. Il n'y a pas non plus de théorie sans fait. Je vous redonne cette citation de Whitman que j'aime bien. Où est-ce qu'il est, Whitman ? Une théorie sans fait n'est qu'une fantaisie, mais des faits sans théorie ne sont que chaos. Tiens, il y a une faute à chaos, pardon. Évidemment, en histoire des, dans les sciences, les faits et les théories fonctionnent ensemble, mais en général, on a deux théories ou plusieurs théories en compétition, et ce qu'on mesure, c'est la cohérence de l'assemblage des faits entre eux en une théorie. En haut, la théorie de la dérive des continents s'accorde mieux avec le fait X qui consiste à trouver un Lystrosaurus et toute la faune qui va avec dans les couches du Trias d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud, que la théorie numéro 2, où le fait s'accommode mal avec la théorie. La théorie numéro 2, c'est la fixité des continents. On trouve la même faune et la même flore sur ces deux continents qui, au Trias, dans cette théorie-là, étaient séparés. Et il faut donc inventer des ponts continentaux, ce que faisaient les époux Termier dans les années 60 ou 50. Tout à fait ad hoc, hein, les poux ils sont en pointillés, pour rendre compte en fait de la communauté des faunes entre des continents qui sont pensés à cette époque-là comme étant distants. Donc l'hypothèse non documentée surnuméraire alourdit la théorie, encore la parcimonie, voilà, hein, une théorie qui a défaut de cohérence est moins parcimonieuse. Et donc les faits, je termine là, les faits et les théories fonctionnent ensemble tout le temps, et ce qu'il y a par contre, c'est qu'on mesure évidemment la cohérence des faits avec plusieurs théories. C'est pas fait si explicitement, hein, mais c'est ce qu'on fait sur le long terme. On mesure la cohérence des faits avec différentes théories en concurrence.
Oui, oui, je voudrais poser une question à propos de John Maynard Smith, qui est un biologiste anglais moderne et qui a utilisé la théorie des jeux et qui a inventé ce concept de stratégie stable. Évolutionnairement stable, justement. Alors, je me pose une question. J'ai très peu lu de ce qu'il a écrit, mais je me demandais, est-ce qu'il ignorait finalement le piège qui était tendu au travers des mots, ou est-ce qu'il était un évolutionniste un petit peu finaliste ?
Non, je crois qu'il... Vous savez, il n'y a pas que Maynard Smith. Nous sommes tous, nous les scientifiques, dans la nécessité de communiquer entre nous. Et les métaphores, elles arrivent à bien des endroits du processus de genèse des connaissances objectives. Les métaphores peuvent être dès le départ. Alors, je vous renvoie pour le coup à un travail extrêmement intéressant sur la notion de programme génétique, qui au départ était une métaphore importée aussi. La notion de programme, c'est une importation en biologie, et c'est une métaphore qui s'est révélée catastrophique sur toute la génétique moléculaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Quand je dis catastrophique, attention, c'est un jugement rétrospectif. Je commets un péché qui a été cité tout à l'heure. Mais on peut dire que ça a bloqué véritablement une appréhension de la régulation génétique et de l'expression génétique stochastique. Je vous renvoie au fameux livre de Kupiec qui vient de sortir chez Fayard. Je l'ai lu, je le trouve extrêmement stimulant. C'est un des meilleurs bouquins qui soit sorti récemment. Ça s'appelle « L'origine de l'individu ». Et il montre en quoi l'essentialisme reste. C'est pas décoratif tout ça. Il montre très bien comment l'essentialisme est resté incrusté dans la biologie moléculaire, la biologie cellulaire et la biochimie de la deuxième moitié du XXe siècle. Et que la notion de programme génétique participe la métaphore hein, du programme participe de cet essentialisme. Alors, Maynard Smith, il n'est pas plus, je dirais non, c'est un bon évolutionniste, simplement il n'est pas moins soumis au risque de nos propres métaphores que n'importe quel autre biologiste. Nous ne cessons de faire des métaphores entre nous, quoi. Et puis il y a aussi des métaphores qui nous sont imposées par les médias, contre lesquelles on a du mal à lutter, parce que la puissance de frappe des médias, quand une métaphore ménareuse est partie, ça y est, on a besoin de communiquer entre nous et avec le public, et ces métaphores nous échappent la plupart du temps. Et elles peuvent en retour bloquer le processus de recherche, ce que montre la notion de programme, la notion de chaînon manquant, et toutes les métaphores qu'on peut critiquer. Alors, je n'ai pas parlé de chaînon manquant, on pourrait aussi en parler. Oui.
C'est un tout petit commentaire sur l'utilisation de termes qui ont un autre sens que celui pour lequel on les emploie secondairement. Tu dis que c'est sur la nécessité, c'est issu de la nécessité de communiquer entre nous. C'est surtout issu de la nécessité de communiquer entre scientifiques, vers des scientifiques dont ce n'est pas forcément le cœur de discipline. Et ça tape quand même vachement plus de parler de tricherie ou d'altruisme que de parler, alors là, pardon, de simplésiomorphie, ou de synapomorphie, qui est pourtant une approche plus juste, même si, bon, il y a peut-être quand même du réemploi d'étymologies qui ont des sens sensiblement différents, mais c'est neutre au moins. Par contre, ça ne communique pas idéalement. Et je voudrais insister aussi sur un dernier point, avant de te laisser reprendre la main, peut-être. C'est pas nouveau. Le gynécée dans la fleur, c'est quand même une gigantesque métaphore organisée par Linné et quelques-uns avant lui pour voir la fleur comme un lieu de sexualité. Les relations hôtes parasites, c'est le même tabac. Et ça, ça s'est banalisé, la dualité de sens. Il n'y a plus de confusion possible.
Nous avons des corps de métier. Il y a peut-être des représentants dans la salle aujourd'hui. Nous avons des corps de métier dont la médiation, la connaissance subjective est la spécialité. Et ces métiers-là nous imposent de ne pas nous exprimer au plus juste. Peut-être tu as dit symplésiomorphie, ça me fait plaisir. Moi, dans un bouquin, un fameux livre qu'on a fait avec le Guyader, on a voulu mettre synapomorphie. Non, ça coince. Alors, il faut trouver une métaphore de remplacement. Innovation. Alors, innovation, c'était ce qu'on avait trouvé de plus neutre. Mais aujourd'hui, j'entends que innovation, ça renvoie à l'innovation technologique, c'est-à-dire ceux des produits manufacturés trouvent un débouché économique. Donc, en fait, dans l'innovation se cache le designer, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas... Effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, je serais peut-être puriste. Il faut peut-être ne pas hésiter à utiliser les mots que les scientifiques se sont forgés eux-mêmes lorsqu'ils ont tenté d'être le plus précis possible. Mais il y a des forces économiques autour de nous qui nous imposent de changer nos mots. Sous peine de ne pas être reçu, de ne pas être compris. Mais si nous acceptons de définir ce dont nous parlons avant d'utiliser les mots...
Je vous permets une petite question. Vous avez parlé des mots, vous avez parlé de valeur et de morale, et vous avez exclu le mot d'éthique. Est-ce exprès?
Oui, parce que... C'est une question extrêmement importante que vous posez là. Souvent, quand on dit les procédures scientifiques, enfin les raisonnements des scientifiques et les démonstrations qu'ils font dans leurs articles sont amoraux, c'est reçu par certains journalistes du journal Le Monde, par exemple, comme une récusation de l'éthique. Or, je vous donne juste un exemple pour bien me faire comprendre. L'organisation les objectifs des sciences et l'organisation de la manip à la paillasse sont habités par l'éthique. Mais la démonstration elle-même que l'on publie dans un article, elle est amorale. Je vais juste donner un exemple. Je fais de la phylogénie de Téléostéen. J'ai trouvé que la morue, elle est plus apparentée au Saint-Pierre qu'elle ne l'est de la baudroie. Puis la baudroie, elle est plus apparentée au poisson-coffre qu'elle ne l'est de la morue. D'abord, est-ce que l'assertion est morale ou pas? Est-ce qu'elle a rapport avec l'éthique ou pas? Est-ce que l'algorithme qui a construit l'arbre, qui a maximisé la contiguïté des états de caractère identiques, excusez-moi du terme, mais c'est l'algorithme, c'est ce qu'il fait, est-ce que l'algorithme est moral ou pas? C'est hors champ. Il n'en reste pas moins que j'ai anesthésié mes poissons avant de les tuer. Alors c'est là que vous faites bien de le pointer. C'est que ça n'est pas parce que nos procédures sont amorales et non pas immorales, comme le disent les créationnistes. Vous savez, la réintroduction de Dieu dans les sciences aujourd'hui, elle se justifie par une science qui serait immorale. Les scientifiques sont des salauds, ils ont fait des bombes atomiques, il faut mettre Dieu dans la science pour empêcher ça. Je résume. May Wan Ho, Université interdisciplinaire de Paris, 1999, j'ai mes sources, page 7, je peux vous dire. On a analysé tout ça depuis longtemps. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'anesthésie de l'animal, elle est dans le contrôle social de ce que font les scientifiques au laboratoire. Et je dis bien contrôle social, il ne s'agit pas du contrôle de la rigueur des procédures. L'anesthésie ne sert à rien dans la démonstration. Elle n'est fait même pas mentionnée dans le papier que j'ai publié. C'est-à-dire que mon papier que j'ai publié, j'ai trouvé ça, génial. J'ai dit, j'ai séquencé tel gène chez tel et tel téléostéen, je fais de la phylogénie moléculaire, l'arbre que je trouve, il trouve ça. Il n'est même pas fait mention de l'anesthésie, parce que ça ne rentre pas dans la démonstration. Par contre, vous, les citoyens, vous avez imposé qu'on ne fasse pas souffrir les animaux dans les laboratoires. On a donc signé une charte contre la souffrance animale qui fait qu'on anesthésie nos animaux avant de les tuer. Mais ceci n'entre pas dans la démonstration. Donc c'est bien, ça n'est pas parce que la science, je conclue, est amorale dans ses procédures logiques et dans ses démonstrations, qu'elle est immorale au sens du contrôle social de l'activité des scientifiques. Voilà. Donc l'éthique, elle existe bien sûr, elle est dans nos objectifs et dans l'organisation de nos manips.
Une dernière question?
c'est pas une question, mais juste une petite précision pour dire qu'il y a des journaux scientifiques aujourd'hui, lorsqu'on veut publier un article et que l'article est accepté, on demande une déclaration dans laquelle on dit que les animaux ont été traités avec éthique.
Une question ? Pardon, je n'ai pas compris. Ah d'accord.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Le Coin. Merci à tous. À tout à l'heure. 14 heures.